L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Gloire à Dieu. Bon, on va maintenant juste pencher nos têtes. On va remettre cette portion de la réunion au Seigneur. Amen. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu, ce matin. Et on te remercie, Seigneur, pour ta présence qui est ici. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu tellement merveilleux avec des projets si glorieux pour tes enfants. Et aujourd'hui, comme on est ici rassemblés, on relâche notre foi pour recevoir de toi, pour recevoir du ciel ta parole qu'on tient dans nos mains, mais on s'attend aujourd'hui de recevoir notre révélation personnelle. Seigneur Dieu, c'est pas un matin où on vient remplir notre intelligence seulement, mais Seigneur Dieu, on veut être rempli dans notre esprit de ta connaissance. Et on prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme j'étais à ma place, j'étais en train de juste prier. Et dans mon cœur, ce texte-là est venu. Ça n'a pas rapport avec mon message en tant que tel, mais c'est dans Proverbes chapitre 2 et le verset 10. C'est un texte que le Seigneur a déposé dans mon cœur, qui a été comme un réma pour ma vie. Dans Proverbes chapitre 2 et le verset 10, le Seigneur m'a donné ce texte-là quand j'étais à Melbourne, en Australie. Puis ça dit, « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. » Et Dieu nous appelle à le connaître intimement. Et comme on connaît Dieu, qu'est-ce qui se passe? On le connaît intimement, ça change nos vies. Et notre vie est délicieuse. Hein? Il va faire de nous des délices. Ces délices, amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, le titre du message, c'est « Jésus l'héritier ». On a commencé une série sur la personne de Jésus-Christ. La semaine passée, vous avez vu, on a parlé beaucoup sur l'incarnation de Jésus. On a parlé des passages dans Philippiens qui nous parlent que le Seigneur Jésus a quitté le ciel. Il est venu s'incarner ici pour venir nous sauver. Vous vous rappelez de ça, enfant de Dieu? Mais gloire à Dieu. Cette semaine, ce qu'on va voir, on va poursuivre dans le thème de Jésus. Mais cette fois-ci, on va mettre l'emphase plus sur l'héritier, que Jésus est l'héritier. On a parlé également la semaine passée que Jésus est le premier-né. Vous vous rappelez de ce texte-là, on a parlé de Jésus le premier-né. On parlait aussi beaucoup en rapport avec cette révérence pour le Seigneur, le premier-né, qui veut dire c'est un titre d'honneur, de prééminence, d'une famille. Et ça nous parle d'un héritier. Et cette semaine, je croyais poursuivre dans l'étude du Seigneur Jésus et aller immédiatement sur l'étude sur la résurrection du Seigneur. Mais je crois que le Seigneur veut qu'on puisse même se ralentir et pas aller trop vite. Parce que vous savez, on a toute notre vie à apprendre sur le Seigneur Jésus. Donc, la série sur Jésus peut durer pendant 50 ans et on sera encore correct. Parce que on ne peut pas épuiser cette étude. Quand on parle de Jésus, on parle de Dieu. Donc, on pourrait passer beaucoup de temps encore et parler du Seigneur Jésus. Mais ici, ce que je croyais que le Seigneur voulait pour nous cette semaine, c'était qu'on puisse juste s'arrêter et constater et réfléchir au fait que Jésus est l'héritier. Et on a étudié ces textes-là cette semaine dans Colossiens. Et c'est ça qu'on va voir encore cette semaine. On va voir que Jésus est l'héritier et on va voir comment cela nous implique. Ça nous implique certainement. Vous n'êtes pas venu ici juste pour entendre des choses, juste des informations. Mais tout ce que vous allez entendre ce matin, vous allez pouvoir les saisir par la foi. Premièrement, les connaître, les recevoir, pas juste dans la tête, mais vous allez recevoir dans votre esprit. Laissez cette parole-là descendre en vous. Et quand vous allez recevoir cette parole, le Seigneur va se révéler à vous pour changer vos vies. C'est ça que Dieu veut faire. Amen. Donc, je vais vous inviter à aller dans Hébreux chapitre 1. On va commencer ensemble dans cette étude, Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Combien d'entre vous ce matin vous êtes prêts? Vous êtes prêts à recevoir la parole? Est-ce que je peux vous entendre le dire? Je suis prêt à recevoir ta parole. Amen. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Vous vous rappelez, on a passé beaucoup de temps la semaine passée sur le fait que Jésus est l'héritier. De toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient, le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce texte-là est très riche en révélation, puis on va passer juste un peu de temps ici pour voir certaines choses. Mais une des choses qu'on veut établir, c'est Jésus est l'héritier. Est-ce que vous le voyez dans votre texte? Jésus est l'héritier. Et ça dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole de Dieu est importante dans nos vies. Il a fait la purification des péchés. Avez-vous été purifié de vos péchés ce matin? Si vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, vous lui avez dit, je te demande de me pardonner, bien son sang vous a pardonné et purifié. Et par la suite, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est assis présentement, le Seigneur Jésus, pourquoi? Parce que son travail est accompli. Amen. Son travail est accompli. Et puis, il a fait de nous une nation sainte. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter à aller maintenant dans Colossiens chapitre 1. On va aller ensemble maintenant. On va parler encore de notre héritage en Christ. On va passer quelques temps ce matin, juste voir notre héritage. Colossiens chapitre 1 et le verset 12 à 14. Colossiens chapitre 1. Versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ce matin, on passe juste quelques temps, on lit des versets. Et comme on va lire de plus en plus de versets, vous allez voir, le Seigneur va se révéler à vous. Il va vous montrer des belles choses. Mais on veut juste établir premièrement, Christ est l'héritier. Et la deuxième chose qu'on veut voir ce matin dans ce texte, ça nous dit qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Êtes-vous un saint ce matin? Si vous ne savez pas encore, c'est parce que peut-être vous n'avez pas fait de Jésus le Seigneur de votre vie, mais le moment que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, le Seigneur vous a totalement purifié et vous a déclaré saint. Vous avez été sanctifié. Dans la religion, ça nous dit on doit attendre 100 ans que la personne soit morte, comme ça il n'y a pas de mauvais témoignage qui fait surface. Et là, il faut avoir accompli un ou deux miracles, je ne sais pas trop, mais quelque chose semblable. Et là, finalement, ils vont dire, bon, on va déclarer cette personne-là sainte. Mais dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul écrivait aux saints. Constamment, on lit les épîtres, puis on voit que Dieu, pas Dieu, mais l'apôtre Paul, écrivait des lettres aux saints de telle ou telle église. Donc, évidemment, ces personnes-là n'étaient pas mortes. Hein? C'est des personnes vivantes. Et ici, ça dit, « Rendez grâce à qui? Au Père qui vous a rendu capable. » Et qu'est-ce que ça veut dire, « se rendu capable? » Ça veut dire « équiper quelqu'un de pouvoir. » Donc, je suis équipé pour avoir part à l'héritage des saints. Donc, les saints ont un héritage. Comprenez-vous ça? Il y a un héritage. Et ça dit comment? C'est dans la lumière. Ensuite, ça continue en parlant de Jésus. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il y a plein de choses qu'on peut voir ici. Ça dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Des fois, il y a des chrétiens qui prient encore, « Oh Seigneur, délivre-moi de ceci, délivre-moi de cela. » Mais ici, ça nous dit, « Il nous a délivrés. » C'est dans le passé, ça. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Donc, aujourd'hui, je ne suis plus dans les ténèbres. J'ai plus besoin de délivrance, je suis délivré. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Savez-vous que dans le royaume de son Fils, il y a d'autres règlements, d'autres lois spirituelles. Ce n'est pas comme les lois au Canada. Comprenez-vous ça? Dans le royaume de son Fils, il y a une autre sorte de philosophie. Il y a une autre façon de vivre qu'on ne vit pas comme dans le terre-à-terre. Si on pense qu'on fait partie du royaume du Canada, si on veut, dans le gouvernement du Canada, on va penser d'une certaine façon. Les lois peuvent changer et là, on change notre façon de penser et on se laisse modeler par le système de ce monde. Mais selon ici, la parole de Dieu, ça dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais vous allez dire, oui, mais on est encore ici sur la terre. Oui, on a les deux pieds sur la terre, mais je ne fais pas partie de ce monde. Je viens d'un autre royaume. Je viens d'un autre royaume. En fait, dans Éphésiens 2:6, ça dit que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et, pasteur, on te voit présentement. Oui, je suis dans ma position en Jésus-Christ, j'ai ma place au ciel. Dans ma position, je suis assis avec Christ. En fait, la Bible dit que je suis un ambassadeur de Christ sur la terre. J'ai été déployé du ciel à la terre. Oui, pour représenter Jésus-Christ. Donc, ça, c'est votre position. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous faites partie d'un autre royaume. C'est pas trop compliqué à comprendre, hein? C'est simple. Donc, Christ est l'héritier et vous faites partie de Dieu, vous a donné le privilège de faire partie de l'héritage des saints. Donc, c'est pas compliqué, vous comprenez très bien, hein, ce que je viens de vous dire. C'est très simple. On va aller ensemble maintenant dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 17. Ce matin, il y a des choses qui vont se passer parmi vous, dans votre cœur. Le Seigneur va faire des choses dans vos cœurs. Amen. Romains, chapitre 8. On va aller au verset 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On lit ce texte-là. Puis, on est là, puis on dit, ben oui, c'est bien merveilleux. Là, on va s'arrêter et on va laisser le Seigneur, le Saint-Esprit, nous révéler la splendeur de ce texte-là. Souvent, qu'est-ce qui se passe? On lit notre Bible et on ne relâche pas notre foi en la lisant. Mais savez-vous que cette parole, c'est la parole vivante du Seigneur qui a la puissance, la possibilité de changer totalement nos vies, changer notre façon de vivre. Changer notre existence, changer notre façon de concevoir la vie par la parole de Dieu. Comme mon épouse a partagé, comme on était à Fort Worth, au Texas, quand on est revenu, elle disait, c'est comme si on était sur une autre planète. Puis c'est comme si ça s'appelait la planète foi. Les gens étaient remplis de foi. Les gens étaient remplis de joie. C'était merveilleux. Et on était là sur le site du ministère de Kenneth Copeland. On arrivait le matin, on avait des gens dans le stationnement. Qui était là pour diriger les autos. Comme on marchait, on était là, on disait « Good morning, bonjour ». Et puis, je disais « How are you today? Comment allez-vous aujourd'hui? » Et la réponse qu'un monsieur m'a donnée, il dit « Blessed and highly favored of the Lord ». Qui veut dire « béni et hautement favorisé du Seigneur ». Ça, j'aime ça comme réponse. Comment allez-vous? Béni et hautement favorisé. Cette personne-là a reçu une révélation de la parole de Dieu. Cette personne-là ne parlait pas de son quotidien et dit « Oh, ben, ça va pas trop bien, destin ici, je me suis coupé le petit doigt, là, ben, regardez, j'ai mis un plastron. » Non, non, c'était pas des histoires comme ça. C'était béni et hautement favorisé du Seigneur. Mais ça, j'aime ça. Mais voici des textes qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir répondre comme ça. Dans Romains 8, verset 17. « Or, si nous sommes enfants, êtes-vous un enfant de Dieu? » Bon, ça, vous savez, vous avez été adopté dans sa famille. Donc, c'est si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ah, on parle encore de l'héritage, vous vous rappelez? Donc, vous êtes aussi héritiers. Saviez-vous ça, que vous aviez un héritage? Vous dites, ben, j'attends que ma grand-mère meure. Non, arrêtez d'attendre, vous avez quelque chose de beaucoup mieux. Prenez le temps, là, de réfléchir à ce qu'on est en train de lire, là. Nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, mais pas héritiers d'une matante, d'un oncle, pas héritiers d'une grand-mère. Ça dit héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, oh, il y a un si. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Là, vous dites, cette partie-là, on aurait pu arrêter un petit peu avant, pasteur. Mais je vais vous faire comprendre, je vais vous aider à comprendre. Je ne pourrais pas vous faire comprendre, mais je vais essayer de vous faire comprendre. Premièrement, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vous comprenez que Dieu a l'héritage. Jésus-Christ, Jésus est le Fils de Dieu et le Fils de Dieu est l'héritier. Mais vous, vous avez également été adopté dans la famille de Christ. Donc, la parole de Dieu nous dit que Christ, Jésus, est notre frère. Christ est notre frère. Donc, dans la famille de Dieu, c'est écrit que Dieu nous aime pareil comme il aime son fils Jésus. Saviez-vous ça? Que Dieu vous aime également, vous et Jésus. Donc, dans la famille royale de Dieu, il y a Jésus et puis il y a Joel Spinks qui est là. Et savez-vous comment Dieu le Père partage l'héritage? C'est pas 90% à son fils Jésus et 10% à Joel Spinks. Non, mais il dit, vous êtes co-héritiers. Tes parents divisent ça comme du monde, hein? Égal, de façon vraiment égale. Et là, ici, on voit, on est co-héritiers avec Christ. Mais là, on va se dire, mais est-ce que le Père a quelque chose de bien à me léguer? Bien, dans Agé 2.8, ça nous dit que le Seigneur a dit, l'or et l'argent sont à moi. Tout ce qui est sur la planète appartient au Seigneur. Dieu possède l'univers. Donc, vous avez tout un héritage. Or, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quelle sorte de souffrance pouvons-nous avoir en tant qu'enfants de Dieu? Bien, la tradition enseigne, bien, si Dieu veut vous envoyer un petit cancer, souffrez votre cancer. Si Dieu veut vous donner telle maladie, des éruptions cutanées, de toutes sortes d'horreurs, d'histoires d'horreur, vivez ça et puis vous allez souffrir avec Christ et être finalement glorifié avec lui. Mais on a mal compris ces choses-là parce que dans Deutéronome 28, ça nous parle que la maladie fait partie de la malédiction. Vous vous rappelez de ça? Notre série sur la bénédiction. Donc, quand on parle de souffrance dans la parole de Dieu, quand on parle de souffrance, on parle obligatoirement de la persécution qui peut venir à cause du Seigneur Jésus-Christ. Comprenez ceci. Donc, la souffrance que l'enfant de Dieu peut vivre, c'est pas la malédiction, à moins de marcher en dehors du plan de Dieu pour notre vie. Mais si on marche avec le Seigneur, nous sommes bénis, nous avons été déclarés justes, sanctifiés, nous sommes bénis. Amen. Donc, si je suis béni, Dieu ne se servira pas de la malédiction pour m'enseigner. J'ai été racheté de la malédiction. Donc, je suis béni aujourd'hui. Amen. Donc, si je souffre, ça veut dire que je souffre parce que je peux être persécuté par les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et j'ai une nouvelle à vous dire. Ça se peut que vous allez même être persécuté par les gens qui connaissent Dieu, mais qui n'ont pas été renouvelés par la parole de Dieu, qui sont ancrés dans la philosophie des hommes au lieu d'être ancrés dans la parole de Dieu. Donc, ici, vous êtes héritiers et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, si vous êtes prêts à être tellement affermis dans votre foi que vous recevez la parole de Dieu et vous marchez dans cette parole, peu importe ce que les êtres humains vont dire à votre sujet. Justement, il y a d'autres textes qu'on peut lire dans la parole de Dieu qui nous parlent de persécution. On peut aller ensemble dans Marc 10. Marc 10 et le verset 29. Marc 10, verset 29. Je peux vous dire, quand j'étais jeune, j'ai vécu la persécution. Les enfants pouvaient se prosterner devant moi et dire « Alléluia, Alléluia » parce que j'étais chrétien. Donc, j'ai commencé à vivre la persécution assez jeune, vers l'âge de 5 ans. Mais j'ai décidé que j'étais pour continuer ma marche avec le Seigneur. Donc, si j'ai été persécuté comme un enfant, pensez-vous que rendu à l'âge de 36 ans, que je vais m'empêcher d'avancer avec Jésus? À 5 ans, j'ai dit non, moi je vais continuer à marcher avec Jésus, même si je me fais niaiser, même si je me fais persécuter. Mais en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui à 36 ans, je peux lire des textes et comprendre la souffrance qu'on peut avoir. On va aller ensemble au verset 29, dans Marc 10. Il dit, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle, dites présentement, dans ce siècle, si des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, donc une belle grande famille en Jésus, et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Ça nous dit ici, quand on a notre héritage, si on a tout abandonné pour le Seigneur, on va recevoir une belle famille dans le Seigneur, des frères, des sœurs et tout ça. On va recevoir même des terres. Si on a quitté une terre pour aller ailleurs pour la cause de l'Évangile, pour évangéliser, on va recevoir dans ce siècle-ci, pendant notre vivant, des terres. Mais tout ça est des maisons, hein? Ça dit des terres avec. Ça dit aussi ça. Ne reçoivent au sanctuaire présentement dans ce siècle-ci des maisons. Ensuite, dans le matériel, on parle des terres avec des persécutions. Pourquoi pensez-vous qu'on voit ici encore des persécutions? Bien, quand vous recevez des terres et des maisons en héritage, des fois, il y a des gens qui sont jaloux. Quand la bénédiction de Dieu se manifeste dans vos vies, il va avoir des gens, je peux vous prophétiser, il y a des gens qui vont parfois être jaloux. Des fois, vous avez juste quelque chose de bien, vous vous réjouissez, vous avez quelque chose, une nouvelle acquisition, et là, vous montrez ça à votre ami, et votre ami garde le silence total et comme... C'est un signe de jalousie. Mais quand quelqu'un dit « Wow, hey, t'as une nouvelle maison, elle est super belle, je suis content pour vous, hey, c'est beau, j'aime la décoration. » Quand les gens font des éloges, même s'ils trouvent ça laid, là, mais ils disent « Ah, ben, je suis content pour vous. » Ça, c'est quelqu'un qui est une personne contente. Hein? Mais quelqu'un qui fait le tour de votre nouvelle maison, ici, on voit quelqu'un de jaloux. Et là, il quitte votre maison, et là, il embarque sur le téléphone et puis se met à parler. Puis là, ils ont toutes sortes de raisons pourquoi c'est pas correct que vous êtes béni comme ça. Ça vient des fois avec des persécutions pour la cause de Christ. Hein? C'est que la cause de Christ, des fois on prêche l'Évangile, on va se faire persécuter, ça fait partie de la game. Okay? Donc notre héritage, on peut recevoir l'héritage pendant notre vivant si nous sommes prêts à souffrir. Êtes-vous prêts à souffrir pour Jésus-Christ? Amen. Moyennement. Peut-être vers la fin de la prédication, vous allez être prêt à souffrir pour Jésus-Christ. Amen. Mais on nous parle ici de cet héritage que nous avons en Jésus-Christ. L'avez-vous lu avec moi? On va aller maintenant dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. En passant, quand on parle d'un héritage, typiquement, comment ça se passe? À quel moment recevez-vous l'héritage? Est-ce que c'est avant la mort de la personne? C'est après la mort d'une personne, n'est-ce pas? Si vous recevez l'héritage de votre grand-mère, admettons, vous devez attendre qu'elle soit morte, n'est-ce pas, avant d'avoir son héritage? Oui. Mais, combien d'entre vous, vous croyez, bien, c'est quand moi je vais mourir, je vais pouvoir avoir l'héritage de ma grand-mère? Non, on ne pense pas comme ça. Mais dans le corps de Christ, on pense comme ça. Christ est mort et nous a délivrés de la malédiction, mais on dit, quand je vais mourir, c'est alors que je pourrai avoir mon héritage. Mais on est toujours à l'envers dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on est toujours pris dans la tradition. Oui, certainement, après notre mort physique, dans la Nouvelle Jérusalem, dans la Cité Céleste, certainement, on va pouvoir avoir pleinement notre héritage. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous devez attendre à ce point-là? Pourquoi ne pas vivre notre héritage aujourd'hui? Vous allez voir, on va voir dans la parole de Dieu plein de belles choses merveilleuses. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, et je prends mon temps, je vous laisse le temps de digérer tout ça. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y en a ici, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes en Christ? Amen. Donc, si quelqu'un est en Christ, ça se réfère à ceux qui ont levé la main. Là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Votre vieille religion, c'est dans le passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Avant, j'étais séparé de Dieu, mais aujourd'hui, je suis réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Amen. Verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc, on est appelé à prêcher l'Évangile aux autres. « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Je veux que vous puissiez prendre le temps, là, pendant 2 minutes. Pensez-y. « Nous faisons donc, nous, les enfants de Dieu, ceux qui sont en Christ, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, Ce texte s'applique à vous. Dites, ce texte s'applique à moi. C'est dit au verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie du royaume terrestre, mais vous faites partie du royaume céleste. Vous êtes des ambassadeurs de quelqu'un d'absolument merveilleux, le roi des rois. Le roi des rois a fait de vous des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Là, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, » ici on parle de Jésus, « qui n'a point connu le péché, » il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Écoutez bien. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il a fait devenir péché pour nous. À quel moment? Sur la croix. Jésus a pris notre dette de péché. Il a porté nos péchés sur la croix. Afin, pour un but, là, écoutez bien pourquoi il a fait ça. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je suis, je peux le proclamer avec fierté, pas à cause de moi-même, mais à cause du Seigneur Jésus, ce qu'il a fait pour moi à la croix, je suis la justice de Dieu. Vous allez dire, oh, mais t'es arrogant, pasteur. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous voulez me persécuter, commencez, c'est pas de problème. Mais c'est dit ici, afin, dites afin. Afin que nous devenions en lui. Êtes-vous en lui? Mais vous êtes devenu quoi en lui? Un petit pécheur sauvé par grâce. Bien, si vous êtes encore un petit pécheur, vous n'avez pas été sauvé par grâce. Soyez sauvés au nom de Jésus et par la grâce, devenir un saint. C'est-à-dire, nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, quand vous me voyez, vous voyez la justice de Dieu qui se promène. Le saint de l'Éternel, et je l'ai dit souvent, puis je vais continuer à le dire, parce qu'au Québec, on a tellement besoin de savoir ça. Je suis la justice de Dieu. J'ai été justifié, j'étais coupable. J'étais coupable de péché, mais maintenant, je suis totalement pardonné, totalement purifié. Il n'y a même pas une petite tache de défaut en moi, dans ma position en Christ. Bon, dans ma condition, demandez à ma femme, peut-être qu'il y a des choses que j'ai besoin de changer. Mais en Jésus-Christ, j'ai été totalement pardonné et totalement purifié. Donc, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour moi. Amen. Bon, tout ça, c'est des choses que vous connaissez très, très bien. On va aller maintenant dans Éphésiens 2, 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Il est écrit ici, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Là, on parle encore ici des enfants de Dieu, et ce texte nous dit, « Vous n'êtes plus des étrangers. » Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Il y a des gens qui sont en dehors de la maison de Dieu. Saviez-vous ça? Il y a deux camps dans le monde. Il y en a juste deux. Dans un camp, on retrouve les enfants de Dieu. Et dans l'autre camp, on trouve les enfants du diable. C'est ça que Jésus a dit. Il a dit aux religieux à son époque, « Vous êtes de votre père, le diable. » Il y a deux camps. Et dans le camp du diable, il y a plein de divisions, il y a toutes sortes de religions, nommez-les, c'est toute la même affaire, c'est de la religion. C'est pas dans la vérité de la parole de Dieu. Il y a deux camps, le camp de Dieu et le camp de l'ennemi. Et là, ce texte-là, ça me dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Je suis plus avec l'ennemi, je suis plus en dehors du royaume de Dieu, mais vous êtes des co-citoyens des saints. Êtes-vous dans cette famille de sainteté, de la sainteté? Amen. Gens de la maison de Dieu. Là, combien d'entre vous, j'ai partagé ça hier à Libem, pendant que j'enseignais, combien d'entre vous, avant d'arriver chez vous, vous sortez votre trousseau de clés, vous vous approchez de la porte de votre maison, et là, vous commencez à trembler. Je suis tellement indigne de rentrer ici. Je te dis, tellement belle cette maison-là. Je suis tellement indigne. Oh, je me demande si j'ose ouvrir la porte. Je me demande si j'ose. Oh, je suis tellement indigne. Non, quand vous arrivez chez vous, qu'est-ce qui se passe? Sortez votre trousseau clé, vous ouvrez. Ou chez nous, on a un code. Touc, 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 et on rentre chez nous. Pas de problème. On n'y pense même pas, n'est-ce pas? Parce que j'arrive chez nous. Vous vous êtes tous réveillés, hein? Amen. Vous arrivez chez vous. et il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas stressé parce que vous arrivez chez vous. Saviez-vous que la maison de Dieu, c'est votre maison? Donc, on s'approche de Dieu sans aucun sentiment d'infériorité. On arrive, la parole de Dieu nous dit d'arriver avec audace devant le trône de la grâce. Là, j'arrive avec révérence parce que je m'approche de Dieu. Mais j'arrive chez nous et sa maison, la cité céleste, tout ça, c'est mon héritage. Amen. Bon, vous suivez jusqu'à présent, il n'y a rien de trop compliqué. Hein? C'est que jusqu'à présent, on a vu deux points. Christ est l'héritier. Deuxième point, nous sommes co-héritiers avec Christ. Bon, là, on va commencer à décortiquer un petit peu quel est l'héritage. Qu'est-ce qui nous appartient en tant qu'enfant de Dieu? On va aller ensemble dans 2 Corinthiens 8, 9. Vous êtes toujours avec moi ce matin? Amen. Dieu est bon. Dieu est toujours bon. Et puis, comme on va se laisser toucher par la parole de Dieu, comme on se laisse façonner par la parole, Dieu va littéralement métamorphoser cette église. Nous allons vivre des changements pour le bien. Je peux vous dire. 2 Corinthiens, chapitre 8. Et je vais vous lire premièrement dans la version Louis II. Car vous connaissez la grâce. Vous connaissez la grâce, n'est-ce pas? Éphésiens 2, 8, vous avez été sauvés. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ici, on va prendre quelques temps, on va atterrir sur ce texte-là. On l'a lu la semaine passée. Et comme des fois, je peux faire, on lit plusieurs versets et on passe à côté comme si rien n'était. Là, on va s'arrêter puis on va juste méditer sur ce texte. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre. La semaine passée, on a vu comment le Seigneur Jésus avait quitté la richesse du ciel pour venir ici sur la terre. Il a marché ici sur la terre et ce n'était pas des rues pavées d'or, mais c'était des rues tapées, hein, des rues de sable, de terre, juste ici sur la terre, et puis il a quitté la richesse du ciel par amour pour nous, pour venir s'incarner sur la terre, pour venir payer la dette de l'humanité. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Là, c'est dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre. Pour vous, et c'est par amour, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, quelle sorte de pauvreté, le fait de quitter le ciel et de venir sur la terre faisait de Jésus un pauvre dans les standards de son historique, de ce qu'il vivait autrefois. Parce qu'au ciel, je peux vous dire, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voit sur la terre. Le ciel, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus riche. Vous pourrez lire les descriptions dans l'Apocalypse et vous verrez que le Seigneur, que notre Dieu, notre Père éternel, a une très belle résidence. Saviez-vous ça? Et Dieu n'a pas honte de sa belle maison. Mais c'est ça, c'est au ciel. Mais Christ a quitté tout ça par amour pour nous et s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ce texte-là, on le lit. La tradition nous dit, bien oui, c'est écrit dans la Bible. On ne peut pas faire autrement, mais on doit le spiritualiser pour siphonner la vérité de ce verset-là afin de s'assurer que votre vie ne change pas et que vous puissiez être équilibré. OK? C'est ce qu'on va faire. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va fermer l'aspirateur de la tradition. On va juste lire le texte et comprendre ce que le texte veut dire. Dans son contexte, dites contexte. Ce contexte-là, vous pourrez lire 2 Corinthiens chapitre 8 et 2 Corinthiens chapitre 9. Les deux chapitres nous parlent d'une offrande financière, nous parlent d'argent. Ces deux chapitres-là. Pourquoi tout d'un coup, quand on voit ce texte-là, ce texte-là se réfère automatiquement à des choses spirituelles. Certainement, le Seigneur nous rend riches spirituellement. C'est sûr qu'il vient nous enrichir spirituellement. Mais de limiter cette richesse au spirituel est de trahir la parole de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une des choses qu'on doit comprendre, c'est que le Seigneur a quitté la richesse et puis ce texte-là nous dit pour nous enrichir. Là, on va le lire dans la version King James que j'ai ici en français, une traduction. Je vais vous lire 2 Corinthiens 8, 9, dans la traduction King James française. Il est écrit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il était riche, cependant s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. » On lit ce texte-là et tous les démons de l'enfer, de la religion, vous disent Je m'oppose à ce texte. Pourquoi? Parce qu'on a tellement entendu parler du vœu de la pauvreté au Québec. On a élevé la pauvreté à un tel point où on pense que c'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Est-ce que je peux entendre un « Amen » ? La majorité des gens pensent que d'être pauvre, c'est une bonne chose. Parce qu'après tout, l'argent est la racine de tous les maux qu'on dit. On va voir des choses ici. Mathilde et moi, on était cette semaine, comme vous savez, à Fort Worth, au Texas, et on a eu le privilège de faire le tour un petit peu des bâtiments et du ministère de Kenneth Copeland. Et quand on était là-bas, on a vu vraiment la main de Dieu. On a vu comment le Seigneur avait enrichi ce ministère-là. Et ça, c'est une des choses qu'on doit bien comprendre aujourd'hui, que le Seigneur ne veut pas que ce soit les enfants du diable qui possèdent la richesse. Pourquoi? Parce que le diable ne prend pas bien soin de cette planète. OK? Si on comprend, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens dans le royaume de l'ennemi, dans les ténèbres, et il y a des personnes, des enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il y a juste deux catégories de gens. Là, si on comprend bien, si l'argent des fidèles de Jésus-Christ demeure dans les mains des païens, qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit les casinos qui existent. On voit le blanchissement d'argent. On voit la criminalité. On voit toutes sortes de choses, les perversions de la terre par l'argent qui devrait être entre les mains des enfants de Dieu. Si l'argent que Dieu a destiné à ses enfants est entre les mains de l'enfant de Dieu, Dieu s'attend que cette personne, l'enfant de Dieu, va être un canal pour le royaume de Dieu. Est-ce que ça fait du sens, ça? C'est que moi, je suis un enfant de Dieu, je veux honorer Dieu avec ma vie, et j'ai un cœur pour son royaume, et j'ai un cœur vraiment honnête devant Dieu, et j'ai des bons motifs. J'entends le message que je suis en train de vous prêcher en ce moment. Vous l'entendez et vous avez un cœur pur. Si vous avez un cœur pur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, par la suite, peut prendre ce canal, qui est Joel Spinks, peut déverser tout ce qu'il veut, toute la richesse qu'il veut, pour que je redistribue ces ressources-là pour faire progresser l'Évangile de Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Comme on est là, on fait des semences dans le royaume de Dieu, on peut acheter des bâtiments. On peut acheter des studios de télévision, par exemple, pour prêcher l'Évangile. On peut construire des églises pour la gloire de Dieu. On peut imprimer des livres pour le Seigneur. On peut imprimer ou dupliquer des CD d'enseignement. On peut faire plein de choses lorsque nous avons les finances pour prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Là, l'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi, ce qu'il veut, il veut que ses enfants puissent avoir l'héritage des croyants. Comprenez ceci, il y a deux catégories. Si les chrétiens disent toujours, bien, on va faire notre vœu de pauvreté, on va être pauvre comme la gale, parce que nous autres, la sainteté, c'est d'être pauvre. C'est ça, être saint. Nous, on pense que le plus qu'on est pauvre, le plus qu'on est saint. Et là, on va laisser, oui, toutes ces ressources-là aller dans les casinos, dans les places de prostitution, dans la criminalité. Et oui, on laisse la rivière de l'argent aller chez les satanistes. Allez-y. Et là, nous, dans nos petites églises de pauvreté, on est là et on dit, on aimerait donc ça acheter un camion pour évangéliser, mais Dieu ne doit pas être là-dedans. Dieu voudrait plus qu'on soit à pied. Hein? Et là, l'Évangile de Jésus-Christ est retardé. C'est pour ça, la chose qu'on doit vraiment comprendre, c'est que Dieu nous appelle, dans cette église, d'avoir la pensée de Dieu, la philosophie de Dieu. Si on comprend que tout l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que son évangile puisse circuler et faire le tour du globe. Il veut que les gens entendent parler que Jésus est bon, que Jésus pardonne, que Jésus purifie, que le Seigneur Jésus remplit du Saint-Esprit. Il veut toutes ces choses-là. Il a besoin d'une voix sur la terre pour que sa parole puisse être répandue. Il a besoin de nous, parce que nous sommes la bouche du Seigneur sur la terre, nous sommes les pieds du Seigneur sur la terre, les mains du Seigneur. Donc, il a besoin d'une armée qui ose croire le texte que je viens de vous lire. Mais la majorité des gens ont dit, non, on ne peut pas croire ça comme ça, ça doit être spirituel, ça ne se peut pas que Dieu veut que son Église soit riche. Si on ne croit pas que le Seigneur veut enrichir son Église, ça veut dire qu'on croit automatiquement que c'est l'Église de Satan qui va être riche. Parce qu'il y a juste deux royaumes, comprenez-vous? Il n'y en a pas trois, cinq, six. C'est soit nous autres ou eux autres. C'est soit les enfants de Dieu ou les enfants du diable. Je peux vous dire, Dieu a mieux que son héritage revienne aux enfants, à ses enfants. Combien d'entre vous, vous léguez votre héritage à vos pires ennemis? On ne fait pas ça d'habitude. Pas dans notre famille, en tout cas. Amen. Je donne des choses de base, là. Mais quand j'étais là-bas, chez le ministère de Kenneth Copeland, premièrement, je peux vous dire, on était assis là, il y avait 1800 pasteurs et des évangélistes. C'est des gens qui avaient été invités pour recevoir la parole de Dieu. Et moi, je m'attendais au début d'avoir peut-être 300 personnes. Je pensais que c'était le frère Kenneth qui était pour prêcher avec peut-être des pasteurs de son équipe pastorale. Mais comme on est arrivé, finalement, on avait des gens qui étaient là, qui étaient des orateurs très, très, très connus que je connais de la télévision. Et je voyais la liste, je me dis, waouh, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Et là, je regarde, je suis assis, juste dans l'auditoire, et je regarde, puis je dis à Mathilde, mon épouse, je regarde, je dis, hein, Reinhard Bonnke, à ma gauche, là-bas, et les hommes et les femmes de Dieu, les rangées, on était là, j'étais comme, oh, on est bénis d'être ici, finalement, c'est vraiment une bénédiction. Mais c'était des personnes qui venaient, pas pour prêcher, pour recevoir. Je regardais les cinq premières rangées environ, c'était juste des hommes et des femmes de Dieu de la télévision. Là, je dis, il nous manque juste Joyce Meyer, puis la brochette est complète. Mais vraiment, on était entouré de personnes qui ont vraiment expérimenté la gloire de Dieu dans leur vie. Et ils étaient là pour recevoir la parole de Dieu, pour être bâti dans leur foi. Et une des choses, le Dr. Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église au monde, a dit qu'il a reçu les informations ou la connaissance biblique concernant les finances par l'enseignement de Gloria Copeland. Et puis, tout ça pour vous dire, son ministère a touché les nations. Si vous avez remarqué, le ministère du petit pasteur Yonggi Cho, c'est la plus grande église au monde, comme je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'à quelque part, ce ministère-là ont vécu des choses et ont des choses également, des révélations à partager au corps de Christ pour nous sortir de la tradition, pour qu'on puisse vraiment bénéficier de l'héritage qui nous appartient. Là, on a fait le tour des bâtisses. Bien, je peux vous dire, eux, ils ont toutes sortes de façons, ils ont toute une philosophie qui est totalement contraire à celle de ce monde. Et c'est pour ça que Mathilde était là, elle était super bénie. Elle dit, on est comme sur la planète de la foi, parce que c'est vraiment ça. Le Seigneur a parlé au frère Copeland, il y a plusieurs années, d'acheter un certain terrain, un grand terrain. C'est 1520 acres, c'est très grand. Et puis à l'époque, il n'y avait pas une scène pour acheter ça. Et je ne vous raconterai pas le témoignage, ça serait très long. Mais Dieu a surnaturellement transféré ce terrain-là entre ses mains pour par la suite construire une église. Toujours cash en passant. Toujours, il a toujours payé cash. Il n'a jamais fait d'emprunt. Jamais. Il a acheté son église cash. Il a construit les studios de télévision, studios d'enregistrement de musique. Il y avait un bâtiment juste pour les partenaires, juste pour répondre au téléphone, pour prier avec les partenaires. Il y a une clinique médicale pour ses employés, pour que les pasteurs puissent non seulement diagnostiquer les besoins dans le corps des gens, mais également prier pour les gens, parce qu'ils veulent des docteurs, des médecins qui croient en Dieu. Il y avait ça, OK. Ils sont totalement autosuffisants. Ils ont l'aéroport pour son avion, OK, parce qu'il va prêcher partout à travers le monde. Donc, il y a son aéroport sur le site. Quoi donc? Là, si vous êtes scandalisé, je vais continuer. Il y a également une place où ils font le traitement d'eau pour les bâtiments qu'ils ont. Quoi d'autre? Donc, ils ont l'électricité comme Hydro-Québec. C'est genre une plante, une usine, genre là, où ils font l'électricité. Comme ça, sont autosuffisants plutôt. Et puis en plus, ils ont des puits de pétrole sur leur terrain. Donc, ils ont leur station d'essence aussi pour remplir les avions et tout ça. Là, vous avez dit, oh mon Dieu, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, c'est totalement incroyable et c'est tout à fait biblique. Puis c'est tout à fait merveilleux et béni. Et quand on sort du Québec, on voit, on découvre, et ce n'est pas le premier ministère que je rencontre comme ça. J'ai voyagé dans d'autres ministères et j'ai vu la même chose ailleurs. Mais pas exactement comme ça avec les puits de pétrole, mais semblable quand même. Tout ça pour vous dire, quand cet homme-là a entendu de Dieu, achète tel terrain, fait ceci, fait cela, et tous ceux qui étaient là, comme Jesse Duplantis qui parlait, il a agi quand Dieu lui disait de faire telle chose, et le Seigneur disait non, fais pas ça. Comme il écoutait exactement à la voix de Dieu, Dieu a béni leur transaction. Pourquoi? Pour le corps de Christ. Donc, le Seigneur enrichit pour être un canal pour l'évangélisation mondiale. Mais la majorité d'entre nous, on ne le vit pas parce que le moment qu'on est enrichi, c'est juste pour notre propre vie. Puis là, on dit, ben, ah, j'ai ça. Au lieu de semer comme une semence, on dit, ben, on va manger la semence. Et là, ça ne va pas plus loin. Mais quand on comprend, puis on dit, Seigneur, je prie que tu puisses bénir telle chose afin que ton nom puisse être glorifié. Là, le Seigneur, quand il sait que c'est un cœur pur, sincère, il dit, bien, cette personne-là, je suis capable de me servir, d'utiliser cette personne-là pour que cette richesse puisse couler à travers sa vie, pour que ça soit, que cette personne-là devienne un centre de redistribution. C'est ça qui se passe. Saviez-vous que le frère Kenneth Copeland, c'est lui qui paye pour chaque croisade d'évangélisation de Reinhard Bonnke? Reinhard Bonnke, il fait des réunions d'évangélisation. Il y a au-delà d'un million en assistance en Afrique. Au-delà d'un million. Le frère Copeland, il avait prophétisé, là, 20-25 ans, dans, tu vas prêcher devant un million. Et à l'époque, Reinhard Bonnke, un évangéliste, il a dit, il ne croyait même pas à l'époque, il dit, voyons, un million, impossible. Mais vous le voyez même sur l'Internet, plusieurs d'entre vous, vous l'avez vu, où il prêche devant un million ou plus. Mais tout ça, c'est Kenneth et Gloria qui payent pour ça. Donc, eux, ils veulent être vraiment des canaux pour la richesse, pour que les gens entendent parler de Jésus. Bon, je vous donne tout ça. Ça, c'est juste une illustration du texte que je viens de vous lire. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, bien qu'il était riche, cependant s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riche. Là, ce texte-là, savez-vous pourquoi on n'a pas prêché ça dans nos églises au Québec? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'on a peur d'être matérialiste. On croit que si on a de l'argent ou si on a des choses, là, des bâtiments, tout ça, qu'on devient matérialiste. Et malheureusement, je peux vous le dire, c'est le cas. Il y a bien des gens qui veulent entendre un message comme ça parce qu'ils sont avares et puis aiment l'argent. Il y a un problème sérieux. C'est un problème sérieux et c'est pour ça que quand j'enseigne une chose semblable, mais ce qui est la parole de Dieu, je dois faire super attention. Parce qu'il y a des gens qui peuvent entendre ce message-là et avoir un cœur perverti, un cœur pervers qui est là rempli d'amour pour l'argent. Puis ça, c'est malheureux parce que Dieu, là, il ne peut pas utiliser une personne comme ça. Mais quelqu'un qui a un cœur pur et qui dit, Seigneur, moi, je ne mets pas de limite. Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux couler à travers ma vie pour que je le redistribue pour ton royaume, sers-toi de moi. Ce n'est pas des gens avares qui aiment les possessions, qui aiment le matériel. Dieu ne nous appelle jamais à aimer les choses. Jamais. Mais Dieu nous appelle à devenir riches. Pourquoi? Pour être un canal pour sa bénédiction. Bon, là, je vais vous expliquer des choses. Là, vous avez dit, mais comment ça, on n'entend jamais parler de ça? En fait, savez-vous, on entend parler de ces choses-là, mais toujours pour dénoncer ce que je suis en train de vous dire. On entend parler contre l'évangile de la prospérité. Pourquoi? Parce que les gens là pensent toujours que c'est des gens matérialistes qu'ils prêchent. Donc, on entend parler, mais on n'entend jamais le bon côté de la médaille. On entend rarement, moi, j'ai jamais au Québec entendu des gens vous présenter le message que je vous prêche là d'une façon saine. C'est toujours déséquilibré. C'est soit les personnes le font pour leur ventre personnel, pour s'enrichir personnellement, mais ils ne font pas pour le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, moi, j'ai la foi, au nom de Jésus, les versets de la parole de Dieu sont vrais dans vos cœurs. Que les versets qui sont là, vous dites, moi, je ne suis pas un vieux religieux traditionnel qui ne veut pas être renouvelé par la parole de Dieu. C'est écrit, je veux le vivre. Pourquoi? Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Mais regardez bien. Là, qu'est-ce qui nous vole dans le corps de Christ? L'ignorance. L'ignorance, premièrement, du fait qu'on a un héritage. La majorité des gens ne le savent même pas. Ils pensent qu'on est tous nés pour un petit pain. Bien, je m'excuse, moi, je ne suis pas né pour un petit pain. Amen. Vous non plus, mais vous pouvez vivre comme ça. Vous pouvez vivre avec la pensée québécoise. On est né pour un petit pain, on ne va rien faire pour Dieu. C'est juste pour les États-Unis, c'est juste pour les Américains, pour les Anglais du Canada. Eux, ils peuvent avoir des grandes églises. Eux, ils peuvent avoir des stations de TV. Eux, ils peuvent avoir ci et ça. Mais pour nous, les petits Québécois, c'est des petites églises. On est notre petit nombre, on va toujours faire des petites choses. Mais moi, au nom de Jésus, on ne vivra pas juste des petites choses. Savez-vous, moi, j'ai des plans pour le Québec. J'ai des plans au Québec où les gens vont entendre, ils vont voir à la télévision un petit prédicateur québécois là, avec un accent québécois qui prêche que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise du Saint-Esprit. Ils vont l'entendre, le petit Québécois. Mais savez-vous comment ça marche? Ça marche toujours avec les finances. Mais savez-vous, moi, je suis dépendant de Dieu depuis le début de l'Église, là, avant d'être engagé. C'est drôle, on a passé aux douanes. Ils ont dit, en tout cas, ils disent, ah, vous travaillez pour l'Église de la Victoire du Québec? J'ai dit oui. Ils disent, vous travaillez pour eux? J'ai dit oui. Je trouvais ça drôle de dire ça. Je travaillais pour eux. Je travaille pour Jésus. C'est-à-dire que quand là, le Seigneur m'a appelé au ministère, même si j'avais zéro cent comme budget, là, savez-vous que Dieu a toujours pris soin de nous? Dieu va prendre soin de vous. Parce qu'on n'est pas dirigé par l'argent. L'argent, là, qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir un cœur pour Dieu et de vouloir voir son royaume avancer. Je continue rapidement. J'ai juste la moitié de mes notes faites. Bon, 2 Pierre 3:16. Les personnes ignorantes est mal affermi, tordent le sens de quoi des Écritures, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Au Québec, c'est qui veut que l'Église soit pauvre au Québec? C'est le diable. Le diable veut appauvrir l'Église au Québec, la vraie Église de Jésus-Christ, les vrais enfants de Dieu qui sont vraiment sauvés, pour qu'on ne puisse rien faire, pour que la parole de Dieu soit arrêtée, pour qu'on ne puisse pas acheter du temps d'antenne à la radio, à la télévision, pour qu'on ne construise pas des studios d'enregistrement, pour que le pasteur Jean ne sorte pas de CD de musique. C'est ça que Satan veut. Comprenez-vous ça ce matin? Dieu, lui, il a des grands projets et Dieu n'est pas limité. Dieu voudrait qu'on fasse plein de choses et toutes les choses qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit ailleurs, Dieu dit, je suis d'accord pour le Québec. Je suis d'accord, Dieu le dit, je suis d'accord pour le Québec. Mais là, il cherche toujours un peuple qui est d'accord avec Dieu. Il cherche un peuple, il cherche une armée qui va sortir de la tradition et qui va oser se faire persécuter, qui va se faire accuser d'être dans l'évangile de la prospérité. Il se cherche un peuple qui est prêt à souffrir ce matin. Savez-vous, quand je suis arrivé au Québec, ça s'adonnait, je vais vous dire une petite illustration. J'avais dit, en revenant au Québec, j'avais prêché une série à la radio sur la prospérité. C'était ma dernière série, et j'avais dit au pasteur Jérémy à l'époque, j'ai dit, tu peux enlever toutes les vieilles prédications, sont vieilles, et je veux mettre des nouvelles. Et là, ça s'adonnait, comme on implantait l'Église, il restait juste ma nouvelle série sur la prospérité. Donc, quand on a ouvert l'Église ici, les gens qui allaient voir mes prédications voyaient que je ne prêchais que sur la prospérité. Donc là, notre nom, c'est « c'est une église, ils sont matérialistes ». C'est ça qui a sorti comme rapport contre nous. Mais les gens qui ont pris la peine d'entendre mon cœur et de savoir ce qu'on prêche vraiment, ont compris qu'est-ce qu'on voulait dire. Et vous êtes ici, entre autres. Comprenez bien. Je continue. Mais ça nous prend une armée de gens de foi qui vont croire la parole. Là, je vous relis, je vous lis Colossiens chapitre 1. Versets 21-22. Vous êtes encore avec moi ce matin? C'est ça, ça passe ou ça casse? Savez-vous, moi, de toute façon, là, nous, on n'est tellement pas intéressés de vivre la religion. Il y a des gens qui vont être offusqués par ce que je vous dis. S'ils sont religieux puis bornés, alléluia, que Dieu les bénisse. Mais regardez bien, nous, là, ce qu'on va vivre, on va vivre la gloire de Dieu au Québec. On va la vivre. Tout ce que Dieu en réserve, là, moi, là, j'embarque dans l'armée de Dieu. Puis je dis oui, Seigneur. Colossiens chapitre 1 et le verset 21. Ça dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. » Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, qu'est-ce qu'on vient de voir? On peut être ennemi de Dieu par nos pensées. Comment? C'est quand on pense le contraire de ce que Dieu pense. Quand on n'est pas d'accord avec Dieu, quand on vient de le lire ce texte-là qui dit que Christ s'est fait pauvre afin qu'on devienne riche, on dit, non, je crois pas ça. Ben là, vous êtes ennemi de Dieu parce que vous croyez pas ce que Dieu dit. OK? C'est facile à comprendre? Amen. On va aller maintenant dans Colossiens 2.8. Colossiens 2.8. Amen. Vous savez, vous ne deviendrez jamais riche si vous avez un mauvais cœur en passant. Si vous avez des mauvais motifs puis vous êtes avare, ce message-là ne s'adresse même pas à vous. Puis ne parlez-en pas, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Ne nous représentez pas d'une mauvaise façon. S'il y a une chose, je vais vous dire en québécois, qui me tape sur les nerfs, selon le cœur de Dieu, c'est quand les gens tordent ce qu'on dit. S'il vous plaît, au nom de Jésus, écoutez avec vos oreilles. Prenez les Q-tips du ciel et écoutez ce qu'on vous dit. C'est sérieusement, n'écoutez pas avec des oreilles de pervers, d'avares, des personnes avares qui veulent s'enrichir pour leurs bénéfices. Oubliez ça, ça ne marchera pas. Je peux vous garantir, ça ne marchera pas. Dieu connaît vos cœurs. Si vous dites, si Seigneur m'enrichit, je vais m'acheter une Rolls Royce, là, oubliez ça. Ça se peut que si vous êtes tellement enrichi que Dieu vous donne le privilège d'avoir la Rolls Royce si vous ne l'aimez pas. En passant, Dieu ne vous appelle pas à aimer vos choses. Même pas. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler. OK, Colossiens. Achetez où donc? Colossiens 2. Écoutez bien ceci. Colossiens 2. Verset 3, verset 1 à 2 et 2. Colossiens 3, verset 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Ceci veut dire que notre attachement, Notre cœur devrait être pour les choses de Dieu et non pour les choses de la terre. Si vous aimez les choses de la terre, vous n'êtes même pas un candidat d'être enrichi par Dieu. Je peux vous le dire. Si vous dites, moi, c'est pour mon ventre, là, oubliez ça. Mais là, comprenez ceci. Dans Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Il est écrit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Je vais vous le relire pour vous aider à comprendre. Écoutez bien, prenez garde, dites à votre voisin, prends garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Savez-vous que vous pouvez vous faire tromper par des gens qui sont mal affermis dans la parole de Dieu, qui vont vous dire que Dieu veut que vous soyez pauvres. Mais ça, en réalité, là, c'est l'évangile de Satan. Et regardez bien, par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? Certainement pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu n'enseigne pas ça. S'appuyant sur quoi? S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, les principes du monde dans l'Église, et non sur Christ. Moi, là, je veux être établi sur les principes de Dieu. Principes de Dieu, pas les principes du monde. Amen. Bon, le problème, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le problème, pourquoi les gens résistent ce message? C'est à cause de 1 Timothée 6, 10. Et on va le voir ensemble. 1 Timothée 6, 10. Ce matin, là, si vous recevez la parole avec un cœur pur, je peux vous dire, on va commencer à vivre des changements dans l'Église parce que le Seigneur va voir nos cœurs purs. Il va commencer à dire, je peux utiliser ces personnes-là. Ces gens-là peuvent vraiment me glorifier par leur compte de banque. Et là, le royaume de Dieu va augmenter, mais là-dedans, vous allez augmenter également. 1 Timothée 6, verset 10. Écoutez bien ceci, ce qu'il est écrit ici. Car l'amour, dites l'amour. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le problème, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Si vous aimez de l'argent, savez-vous, vous pouvez être pauvre comme la gale, vous pouvez être cassé et aimer l'argent. Saviez-vous ça? Vous pouvez être très, très pauvre et aimer l'argent. Vous pouvez être très, très pauvre et ne jamais bénir quelqu'un. Vous allez au restaurant avec quelqu'un et le Seigneur vous dit, paye donc la traite, paye-lui un repas au restaurant. Puis là, vous dites, ça va me coûter 10$. Je ne suis pas sûr. Le Seigneur vous travaille. Et là, vous résistez. Ah, vous n'avez pas obéi Dieu. Pourquoi? Parce que vous aimez plus votre argent que la personne. Vous aimez plus votre argent que Dieu. L'amour de vous pouvez être très pauvre et aimer l'argent, je peux vous le dire. Donc, le problème, c'est pas, ça ne dit pas ici, l'argent est une racine. Non, ça ne dit pas l'argent est une racine. Ça dit l'amour de l'argent. Donc, on n'est pas supposé d'aimer l'argent. Moi, je peux vous dire, je n'aime pas l'argent. J'aime Dieu et Dieu seulement. J'aime Dieu. Amen. Et ce qu'on doit faire, c'est aimer tellement Dieu qu'on, comme dans Matthieu 6, 33, ça dit, cherchez premièrement Dieu et sa justice et toutes ces choses, son royaume et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, on cherche Dieu premièrement et là, le Seigneur s'occupe des choses qu'on a besoin. C'est comme ça, ça marche. On aime Dieu premièrement. Amen. Et là, dans Colossiens 2, verset 1 à 2, on l'a déjà lu, attachez-vous aux choses d'en haut. Et là, dans 1 Timothée 6, 17, on va retourner dans 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, 17. Amen. 1 Timothée 6, verset 17. Écoutez bien, vous êtes encore avec moi, je n'ai pas terminé. Je veux vous aider ici. Vous allez recevoir des choses si on continue un peu. 1 Timothée 6, verset 17. Là, l'apôtre Paul écrit à son fils spirituel, Timothée. Et là, il dit, regarde Timothée, c'est ça que tu dois dire à ton église. Comprenez ceci, quand Timothée prêchait, là, il ne prêchait pas aux païens. Les gens qui viennent à l'église, là, c'est des chrétiens, d'habitude. C'est des enfants de Dieu. Là, on va lire dans Louis II, après je vais vous lire dans l'autre version. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions ou, dans le grec, pour notre grand plaisir. » OK, vous avez compris ça? Là, je vais le relire dans la version traduction King James. Le vrai mot, c'est pas recommande, mais c'est ordonne. Pensez-vous que Timothée avait le pouvoir et l'autorité spirituelle d'ordonner aux inconvertis des choses spirituelles? Pensez-vous qu'il avait l'autorité? Non. Hein? Moi, je me promène pas dans la rue et j'ordonne pas aux gens de faire ceci, faire cela. Dieu peut me dire, ordonne dans ton église d'enseigner telle ou telle chose. Là, j'ai l'autorité de le faire. Parce que c'est ma place, c'est mon endroit où Dieu m'a donné l'autorité spirituelle. Donc, l'apôtre Paul parle ici à son fils spirituel, Timothée, et il dit, voici, il dit, ordonne à ceux qui sont riches dans ce monde de n'être ni hautains, ni de mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses, parce que les richesses humaines là, de cette terre sont incertaines. Mais dans le Dieu vivant, on met notre confiance jamais dans la richesse, mais on la met exclusivement dans le Dieu vivant qui nous donne, Dieu, qui nous donne richement toutes choses pour en jouir ou on peut voir pour notre très grand plaisir. Donc, Dieu nous donne des choses aux riches de ce monde, on vit dans ce monde. Dieu donne à son Église, pourquoi? Pour notre grand plaisir ou pour en profiter dans d'autres versions. Donc, ici, ce qu'on peut voir, le problème, ça n'a jamais été l'argent. Le problème n'a jamais été l'argent. Le problème a été l'amour de l'argent. Le problème a été la confiance dans l'argent. C'est quand on place notre confiance dans notre argent, dans notre sécurité humaine terrestre. Si mon cœur est là, puis je dis, bien, je peux obéir à Dieu tant et aussi longtemps que mon compte de banque dit oui, là, on a un problème. Ce que Dieu recherche, il se cherche une armée de personnes qui sont totalement radicales et qui disent, Seigneur, moi, je suis disponible pour toi. Seigneur Dieu, moi, je suis prêt à ce que tu me remplisses de tout ce que tu veux pour que je puisse répandre ton évangile. Et certainement, mon héritage implique les bienfaits spirituels qu'on mentionne souvent d'un dimanche à l'autre, la protection divine du psaume 91, le psaume 103 nous parle qu'il guérit toutes nos maladies. Il y a tellement de belles choses dans notre héritage en Jésus-Christ, mais il y a l'aspect financier qu'on ne parle pas souvent au Québec parce que les gens ont tellement peur, mais cette crainte neutralise l'abondance. Cette crainte neutralise la foi pour recevoir ce que Dieu en réserve. Je continue. En 2004, quand j'ai eu ma visitation historique qui a changé ma vie, c'est à ce moment-là que j'ai reçu mon appel pour la francophonie. Dans cette visitation, le message que j'avais reçu du Seigneur pour la francophonie, c'est ce que je vais vous partager maintenant. Puis c'est en 2004 que je l'ai reçu, je l'ai enseigné un peu, mais le Seigneur est vraiment en train de dire, l'heure est arrivée de passer à l'action. Le message, c'est Galates 3:13, que vous avez été rachetés de la malédiction. Dieu, l'ADN de ma vie, l'appel sur ma vie, c'est de prêcher la bénédiction. C'est ça que Dieu m'appelle à prêcher dans la francophonie pour que la bénédiction puisse envahir l'Église de Jésus-Christ, pour qu'on puisse répondre à notre appel. Donc ça, c'est mon appel, la bénédiction. Jésus m'a dit, tu es appelé à déclarer que la malédiction a été renversée. La malédiction a été renversée pour qu'on puisse être béni pour être une bénédiction. C'est pour ça qu'on est sauvé. Mais là, je peux vous dire, il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Et je peux vous dire, le combat, ce n'est pas juste à l'extérieur, frères et sœurs. Le combat spirituel n'est pas juste à l'extérieur de nos églises. Le combat spirituel, en gros, je pourrais même vous dire majoritairement, là, c'est dans nos églises. Où les gens religieux, traditionnels, s'opposent à ce message-là parce qu'ils disent, bien, ils sont matérialistes. Mais ils n'ont rien compris. Savez-vous, le vrai message de la prospérité, c'est d'être généreux. Quand on est généreux et on donne des maisons, on donne des autos, on finance des églises, on bâtit des... Savez-vous, là, c'est pas des gens avares, ça. C'est pas des gens matérialistes. C'est des gens qui ont oublié qui ils sont, puis dans le sens, ils disent, moi, j'ai pas besoin de ces choses-là. Moi, je veux juste être un canal, et c'est un fait ce que tu veux à travers ma vie. Le vrai message, le vrai, vrai message de la prospérité, c'est d'être généreux. Mais on ne peut pas être généreux quand on est toujours cassé. On peut essayer. Mais quand on voit dans la parole, Dieu nous appelle à aider les pauvres. Savez-vous ça que Dieu nous appelle à aider les pauvres? Saviez-vous ça, frères et sœurs, que Dieu nous appelle à aider les pauvres? Le croyez-vous ce matin? Mais si vous êtes les pauvres, comment pouvez-vous aider les pauvres? Hello? Non, mais c'est vrai. C'est pas normal. Saviez-vous que le peuple d'Israël, est-ce que c'est un peuple pauvre dans la parole? Non! Regardez, on va aller ensemble dans Genèse 26. Genèse 26, je vais juste vous lire ça bien, bien rapidement. Regardez, Genèse 26, vous pourrez prendre votre temps pour lire votre Bible. Lisez les patriarches, l'histoire des patriarches. Vous n'en trouverez pas un pauvre dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Proverbe 10, 22, ça dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est écrit dans la Bible. Regardez bien, Genèse 26, verset 1, ça dit « Il y eut une famine dans le pays. » OK, on parle d'Isaac. Il y a eu une famine. Et là, verset 12, Isaac sema dans ce pays. Dans quel pays? Dans un pays de famine. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Pourquoi donc? Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Oh, mais ça ne peut pas être dans la Bible, ça. Dans mon église, on ne m'a jamais enseigné des choses comme ça. Il avait des troupeaux. Oh, bien là, il ne faut pas exagérer quand même. S'il avait pris ces troupeaux-là pour donner ça, admettons, là, pour la cause du Seigneur, et là, il n'y avait pas besoin d'avoir autant de troupeaux, voyons. Il n'y avait pas besoin d'avoir autant de choses, là, quand même. Regardez bien. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins, les ennemis, lui portèrent envie. Les gens étaient jaloux. Même les inconvertis, les enfants du diable étaient jaloux d'un homme de Dieu qui sema dans ce pays et récoltait. Regardez. OK, on continue. Vous êtes encore avec moi? On parle ici de notre héritage en Christ. On est toujours en série sur Jésus. On a un héritage, mais si on fait juste un texte, la semaine passée, je vous ai lu ce texte-là, pensant que vous avez tout compris. Vous avez tout compris ça la semaine passée. Hein? Je l'ai lu. Moi, des fois, j'ai des affaires. Puis, ah ben oui, on a un héritage en Christ, c'est merveilleux. Puis pour moi, dans ma tête, je le sais. Puis je me dis, tout le monde, ils le savent. Et après, je réalise, non, ils ne savent pas. Sauf que, parce que des fois, on se dit, mais on lit tous la même Bible, on le voit tous, ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit les mêmes choses. C'est que je prends le temps. Écoutez, est-ce que je peux défaire une autre tradition? OK, écoutez bien. Là, tout à l'heure, j'ai dit que le frère Copeland a acheté un jet. OK? Parce qu'il fait le tour de la planète, puis il prêche. Je peux vous dire, à chaque fois qu'on prend l'avion, nous, qu'est-ce qui se passe? On est toujours retardé une place. Et ma femme a dit, on est vraiment prédestiné à avoir notre jet privé. Parce que vraiment, c'est fatigant. On était retardé quatre heures encore en revenant. J'ai enseigné à l'IBEM hier matin, mais j'avais dormi juste quelques heures parce que je suis arrivé, je me suis couché à 3h30 le matin. Mais si j'avais eu mon jet privé, ben là, ça serait d'autres choses. Mais juste pour vous dire, certains d'entre vous, quand vous avez entendu ça, là, les esprits religieux étaient là, je break. Mais franchement, là, c'est exagéré quand même. S'ils prenaient l'argent de ce jet privé-là et le donnaient aux pauvres, bien là, ça serait pas mal plus raisonnable. Là, levez pas la main, là. Il n'y a pas un chat ici qui a pensé ça. Mais s'il y en a un, c'est vous, ça. Okay? Mettons, vous êtes moi, c'est moi. Moi, je pense que c'est un petit peu exagéré. C'est un petit peu extravagant. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans la parole de Dieu? Je vous dis, vous allez changer, peut-être déranger, mais si vous êtes dérangé pour le bien, ça va vous faire du bien. Vous allez voir, là, c'est pas du tout être matérialiste, c'est d'être libre, libéral. C'est d'être vraiment libre pour que le Seigneur se serve de nous, pour qu'on puisse voir une révolution dans la francophonie. C'est merveilleux. Vous allez le vivre si vous croyez. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va aller ensemble dans Jean chapitre 12, verset 1 à 8. Jean chapitre 12 et verset 8. En passant, une des critiques que j'ai reçues au début de l'Église, les gens disent, oh, ils prêchent juste la victoire, OK, entre autres. Ils prêchent juste ce que les gens veulent entendre. Hey, si je peux vous dire, est-ce que je peux me défendre un petit peu? Je ne vous prêche pas un message que les gens veulent entendre. Hey, excusez, là. Je ne vous prêche pas un message que les gens veulent entendre. Je peux vous dire, je me défends ce matin. Hallelujah! Les gens ne veulent pas m'entendre. Ils ne veulent pas entendre ça parce que les esprits religieux disent, non, gardons l'Église pauvre. Je peux vous dire, là, je ne reçois pas des lettres de félicitations quand je prêche des choses comme ça. Mais je vais le prêcher quand même. Vous vous rappelez, au début de l'année, j'ai dit, je vais prêcher tout ce que Dieu me dit de prêcher. Amen. Mais remarquez, si là, vous êtes tous super bénis par la suite, vous avez reçu, vous avez un cœur pur, vous n'êtes pas avare, vous avez vraiment un cœur pur, et là, on passe une offrande, admettons, pour acheter un camion, et vous lavez l'argent dans votre compte de banque, puis vous savez, puis là, vous dites, le Seigneur vous dit, donne tel montant, puis là, vous le faites, on achète la vanne qu'on veut acheter pour l'Église, gratuitement, comme ça, cash, pas de financement, là. On l'achète comme ça. Là, après, hey, qu'est-ce qu'on fait? On fait plein de ministères, on est bénis au max. Là, tout le monde dans l'Église, vous êtes tous bénis. Les gens, on a des visiteurs qui arrivent à l'Église. Bonjour, comment ça va? Là, vous dites, je suis béni et hautement favorisé. Mais si c'était tous nous, là, qu'on le vivait, pourquoi pas? Mais non, c'est juste à Fort Worth. Non, 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 ça peut se passer à Granby, je vous le dis. Parce que les paroles sont là. C'est la parole de Dieu, c'est bon pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Écoutez bien. Là, remarquez, on va aller dans la parole de Dieu, Jean chapitre 12, versets 1 à 8. Vous allez discerner de quel esprit vous êtes. Qui vous anime? Quand vous dites, ben, faut pas exagérer. Écoutez bien. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. On lit ça, on ne fait pas de recherche, on dit, ben c'est bien, bien gentil. Ce parfum, c'est dit d'un grand prix. Savez-vous, aujourd'hui, quand on fait des recherches, vous lisez des commentaires bibliques, c'est d'une valeur d'environ 10 000 $ ce parfum-là. Écoutez bien, sauf que là, Marie, et dans d'autres textes, dans Matthieu 26, 6 à 13, ça nous dit que Marie a oint également la tête du Seigneur Jésus. Donc, elle est là par amour pour le Seigneur, elle donne son trésor au Seigneur Jésus. 10 000 $ un parfum Chanel No. 5, c'est moins cher que ça. Mais ici, elle fait ça par amour. Elle fait ça par amour pour le Seigneur. Regardez, elle fait un geste d'adoration. Elle vient oindre ses pieds, elle oint sa tête. Et là, le Seigneur Jésus reçoit son amour, l'expression de son amour. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » C'est qui s'opposait à l'extravagance? Hey, c'était le temps où Jésus aurait pu dire, là, « Écoute, Marie, je vois qu'est-ce que tu veux faire, mais regarde, là, c'est vraiment extravagant. » Marie, je connais ton cœur, mais regarde, fais vraiment pas ça. Va, prends ce parfum-là, va-le, là, puis on va redistribuer aux pauvres. C'était son moment parfait là, pour nous corriger. Mais il l'a pas fait. C'était quelque chose de consacré à l'Éternel, pur, c'était pour adorer le Seigneur. Quand c'est pour le service de Dieu, il n'y a rien de trop beau. Je peux vous dire, là, il n'y a rien de trop beau pour le Seigneur. Regardez, on est tellement limité. Prenez un petit tour dans votre Bible, dans Lévitique, allez, pas Lévitique, dans l'Apocalypse plutôt, allez lire la description du ciel. Vous verrez que Dieu n'a pas une pensée de pauvreté. Dieu n'est pas pauvre et puis il n'est pas limité avec notre pensée, notre limitation de pauvre. Dieu n'est pas pauvre, enfant de Dieu. Si vous voulez être pauvre, le ciel, ça serait très pauvre. Ça serait la terre, puis des roches, puis ça serait ça. On vivrait dans des tentes roulottes. Mais ce n'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Je vous dis, ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. OK, il faut que je termine, là. Judas a dit, quel gaspillage. Mais Jésus, lui, a dit même, cet évangile va être répandu et son nom de Marie va être répandu à travers la terre à cause de ce qu'elle a fait. Je n'ai pas tout lu le passage, mais ici, notre mandat. Dans Galates 3, 13, nous avons été rachetés de la malédiction. Il y a tout un système mondain, comment ça marche dans le monde. L'endettement, Deutéronome 15, verset 6, Proverbe 22, verset 7, ça nous parle du système mondain. Peut-être on va prendre plus de temps pour vraiment creuser plus profondément. Vous pouvez suivre également le cours sur les principes de Dieu pour l'économie d'un enfant de Dieu. Luc 16, verset 13, qui dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir l'argent et Dieu. On doit servir seulement Dieu. » Et 2 Corinthiens 6, 14 à 18 nous dit, qu'on ne doit pas vivre sous un joug étranger. On ne doit pas être serviteur de Mastercard. On doit être libre de toute dette. Je vais terminer avec un seul verset, un seul passage. Éphésiens 3. Je termine. Oui, je termine. Non, je vais juste terminer avec deux autres passages. J'en ai un autre qui me vient. Écoutez bien ceci. Éphésiens 3, verset 20. Est-ce que je vous ai lu la Bible ce matin? Est-ce que j'ai inventé des affaires des airs? Non. J'ai lu la Bible, n'est-ce pas? Êtes-vous des enfants de Dieu? Oui? Vous êtes des enfants de Dieu? Croyez-vous la Bible? Mais pourquoi qu'on ne la croit pas dans nos vies? Pourquoi qu'on ne la croit pas? C'est écrit pourtant. Mais pourquoi qu'on ne croit pas la Bible? Je vous ai dit, la tradition, les esprits religieux qui nous empêchent de recevoir ces choses-là. Parce qu'on a peur de la persécution. Parce que quand on se fait persécuter et on se fait mal représenter, quand les gens disent des choses mauvaises sur nous, ça ne nous tente pas. Combien d'entre vous aimez ça, vous faire parler dans le dos? Hein? Non? Combien d'entre vous aimez ça que les gens disent « c'est un extrémiste, c'est l'évangile de la prospérité, c'est les matérialistes? » J'aime pas ça. J'aime pas ça, on va me faire dire ça. Mais je vais payer le prix. Je vais payer le prix, je vais me faire persécuter pour la cause de Christ. J'accepte de me faire dénoncer, j'accepte de me faire dire toutes sortes de choses, mais Dieu connaît mon cœur. Savez-vous, Dieu connaît mon cœur. Si vous êtes là et vous me jugez, je ne sais pas, peut-être vous me jugez même, mais Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît que mon cœur, c'est pour lui. Puis Dieu sait que comme le Seigneur va continuer, savez-vous, Dieu a béni cette église. Avez-vous déjà remarqué qu'on n'a jamais quitté de l'argent? Avez-vous déjà remarqué ça? J'espère que oui. On n'a jamais dit, on a tel besoin, on vous supplie, s'il vous plaît, aidez-nous. On n'a jamais fait ça, on ne le fera jamais. Parce que Dieu, il ne marche pas de même. Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, là, quand on a besoin, on dit, Seigneur, j'ai besoin. Et Dieu dit, oui, mon enfant, voici. Je vais vous dire, l'année passée, là, ça donne que des gens qui n'ont pas été fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes, dans le temps de Noël. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, dans le temps de Noël. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire avec cet argent-là? Je me demande bien. Priez, Dieu vous donnera une révélation. Mais il y a des gens dans cette église qui ont manqué de fidélité. Ils ont dit, ben nous, on ne donnera pas notre dîme dans le temps de Noël. Regarde, on a d'autres dépenses dans le temps de Noël. Mais là, le pasteur Joël, chez eux, c'est son ballon. Ici, on a un déficit. C'est son ballon d'exercice. Le pasteur Joël, il sait qu'on a un déficit dans le temps de Noël. J'ai deux options. Option numéro un. Oh, Seigneur! Option un. Ou deuxième option, Seigneur, tu me dis de ne jamais m'inquiéter. Seigneur Dieu, c'est toi le maître de cette église. Tu es le chef de cette église. Et Seigneur, je donne tous ces besoins. Je te présente nos besoins et je te remercie pour la provision. Je te remercie. Ce n'est pas ma business, c'est ton affaire. Moi, je suis juste là pour prêcher ta parole. Ça, c'est ton œuvre. Ce n'est pas mon église, c'est ton église. Seigneur, tu t'arranges avec les factures. Il y en a qui ont décidé de ne pas être fidèles, mais toi, tu demeures fidèle. Je me fais inviter dans un souper. Je suis assis à la table au souper. C'est pas des gens de notre église qui nous invitent à souper. Et le couple, il nous dit, le Seigneur nous a dit de vous donner un montant. C'était le montant exact qui nous manquait cette semaine-là. Wow! Ça, c'est un petit montant. Dieu est capable des plus grands montants. On ne doit pas s'inquiéter. On doit obéir Dieu. Quand Dieu dit « fais ça », savez-vous, quand on a engagé pasteur Jean, là, est-ce que je peux le dire, là, la comptable nous disait, « Avez-vous regardé vos livres? Avez-vous vraiment checké vos affaires? Êtes-vous sûr, là? » Parce que, humainement, là, la raison humaine nous disait de ne pas faire ce move-là. Humainement, on n'avait pas le budget pour engager pasteur Jean. Vous êtes là. On n'avait pas le budget. Mais le Seigneur avait parlé à mon épouse dans la nuit, elle lui donnait des rêves, et le Seigneur m'avait dit, « C'est le temps. » Dans mon esprit, c'était comme, « C'est le temps. » Sauf que là, il n'y a pas d'argent. Hallelujah, pasteur Jean, est-ce que tu veux t'engager à travailler à temps plein pour l'Église de la Victoire du Québec? Il dit oui. La semaine suivante, le budget était là. La semaine suivante, l'argent était là. C'est de même qu'on marche. Nous autres, on marche par la foi. Okay? Sauf que si on vous dit, le Seigneur nous dit, il faut faire telle affaire, puis est-ce que l'argent est là? Est au ciel, mais Dieu, il faut qu'il fasse un transfert céleste. Des fois, c'est comme ça que ça marche. Honnêtement, je sais que je prends bien du temps ce matin, là. Mais vous devez connaître notre cœur. On n'est pas conduit par l'argent. On n'est pas matérialiste. C'est pas notre cœur. Mais on comprend que Dieu, sur cette terre, a besoin du matériel. Il a besoin du matériel. Il en a besoin. On a besoin des caméras, savez-vous ça? Les gens, là, présentement, allô les amis, sur Internet, ils sont là aujourd'hui. Si on n'avait pas acheté de caméra, ils ne seraient pas là. Mais êtes-vous content? Vous avez semé, puis aujourd'hui, on rejoint des gens partout à travers le monde. Oui! Alléluia. Dieu est content. Savez-vous que Dieu est content de ça? Amen. Dieu est content. Là, je voulais terminer avec des versets. Êtes-vous encore avec moi? Vous ne dormez pas encore? OK, je termine par la foi. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est capable de faire bien plus qu'on peut s'imaginer. Et là, je vais aller dans 2 Corinthiens chapitre 9. Dieu voulant, je termine avec ça. Regardez bien. J'aimerais ça vous enseigner. Vous savez, là-bas, là, les prédications duraient 2h30 environ. Sauf que quand on a soif, là, on est là, on dit, donne-moi-en de la parole, je veux l'avoir, la parole. C'est la parole. C'est ça qu'on prêche, la parole. C'est pas d'autre chose. Je n'ai pas sorti un autre livre, là, c'est la Bible qu'on lit. Mais regardez bien. Quand c'est la parole, ça change nos vies. Mais si on croit la parole, mais on peut ne pas la croire, comme la majorité du monde. Mais moi, je la crois. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Ça dit, si sachez-le, celui qui sème peu, moi, en passant, ça parle des finances ici, la semence financière. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais si vous êtes un vieux grincheux, comme un pasteur me dit, Dieu va accepter quand même. Mais Dieu aime bien mieux quand on donne avec joie. C'est ça que ça veut dire. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Grâce, ça veut dire faveur. Okay? Dieu peut vous combler de toutes ses faveurs afin que possédant toujours, dites toujours, en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça va à l'encontre de la tradition, ça. Mais il y en a qui disent, ben moi, en autant que j'en ai juste assez pour moi. Ben si vous en avez juste assez pour vous, vous êtes un égoïste. Pensez juste à vous. Arrêtez d'être égoïste. Faites plus de place pour la provision de Dieu pour aider les gens autour de vous. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, parce que lui-même n'était pas un indigent. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit, Dieu qui fournit, de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira, dites fournira, et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Traduction, plus de caméras, plus de ventes, plus de bâtiments. C'est ça, il augmentera les fruits pour qu'on puisse faire plus d'affaires pour son royaume. Ensuite, verset 11. Vous serez de la sorte enrichi. Hein, vous voulez dire, ben, on vient de donner et on est encore plus riche. Ça ne fait pas de sens, là. C'est pas raisonnable, ça. Exactement, c'est pas raisonnable. Ça ne fait pas de sens. Je vous le dis, le royaume de Dieu ne marche pas comme le royaume de la terre. Ça ne marche pas pareil. Là, ça dit, vous serez de la sorte enrichi, après avoir donné. Là. À tous égards, pour toute espèce de libéralité ou de générosité, c'est ça que ça veut dire, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, une personne qui est sauvée sur l'Internet, qui a entendu parler de Jésus-Christ pour la première fois, là, la personne dit, oh, merci Seigneur. Là, il y a des actions de grâce qui montent vers Dieu parce que la personne a entendu parler de Dieu. C'est le même que ça marche. Mais là, la question demeure. Vous avez entendu dire que Dieu bénit son peuple. Christ est l'héritier, le premier-né. Christ est l'héritier. Amen, vous croyez ça? Vous croyez ça, la partie que Christ est l'héritier. Au moins, vous croyez ça. Croyez-vous au moins ça? Christ est l'héritier. Deuxième point, vous êtes co-héritier avec Christ. Croyez-vous ça au moins? Je suis co-héritier avec Christ. Là où ça peut changer, c'est ben l'héritage ne veut rien dire, par exemple. Là. Ça va juste être au ciel. Là. Si c'est ça pour vous, alléluia, soyez bénis. Vous allez l'avoir au ciel aussi. Vous allez pouvoir en profiter, mais votre vie sur terre va être un petit peu plus pénible. Mais si vous dites, moi, je ne limite pas mon héritage au ciel. Je ne limite pas ça. Moi, je dis, l'héritage et ce qu'on voit dans la vie des hommes bénis de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, il n'y avait personne sur l'aide sociale. Ces gens-là, si Dieu l'a fait pour eux, est-ce que ça se peut que Dieu veut faire pour moi? Et si oui, mon cœur, comment devrais-je agir? Si Dieu veut élargir ma possibilité, s'il veut élargir ce canal pour que plus de bénédictions coulent à travers ma vie, est-ce que je suis prêt à accepter qu'il m'enrichisse? Ça revient à ça. La majorité des gens dans les églises vont dire non, je refuse l'héritage, je ne peux pas accepter que Dieu va m'enrichir parce que, regarde, telle personne a fait un vœu de pauvreté et Dieu aime les pauvres. Dieu aime les pauvres, mais savez-vous, il y a besoin des riches pour aider les pauvres. Si on prend tous le vœu de pauvreté, je m'excuse, c'est pas, vous n'êtes pas à bonne église. Le vœu de la pauvreté, allez quelques églises en bas de la rue, là, vous allez en trouver qui vont vous dire, oui, viens faire le vœu de pauvreté. Moi, je veux faire le vœu de la richesse. C'est ça qu'on va établir, le vœu de la richesse. Hé, hey, là, vous allez en entendre parler en titi. J'ai fait le vœu de la richesse dans ma vie. Le vœu de la richesse? Oui, mon pasteur nous a enseigné ça. Le vœu de la richesse? Oui. Ah, mais tu vas dans une église matérialiste? Non. En fait, tout ce que Dieu donne, je dois être prêt à le donner à Dieu. Quand Dieu me dit, donne ma maison, je vais donner. Savez-vous, un de nos projets, Mathilde et moi, notre rêve, quand on a acheté notre maison, là, j'ai dit, cette maison, on veut la donner. Je vous dis ça, c'est un des projets. On n'est pas en mesure de le faire encore. Mais on veut semer notre maison. Il y a d'autres choses qu'on a semées, je ne vous le dirai pas. Mais moi, mon cœur, là, moi, j'entends des témoignages des gens qui ont donné une maison, deux maisons, trois maisons. Puis ils bénissent des gens. Quelqu'un arrive à l'église. Admettons, il y a une famille qui arrive d'un autre pays. Ils disent, ah, c'est notre nouvelle église. Pasteur, on a besoin d'aide. Ah oui, qu'est-ce que tu as besoin? Ben un lit, un matelas, des... As-tu besoin d'une maison tant qu'à ça? Ouais, j'aurais besoin, mais... Ben tiens, je t'adonne. Mais j'aimerais ça faire ça. Pourquoi? Mais aimeriez-vous ça faire? Quelqu'un dit, ben moi, ça prend une demi-heure à aller marcher pour aller à mon travail, puis il y a de la neige. Ah oui, ben est-ce que je peux t'acheter une auto? Oui. Aimeriez-vous ça faire ça? Mais si on est tous cassés comme des clous, si on a tous adopté l'enseignement catholique, le vœu de la pauvreté, je m'excuse, je ne suis pas catholique, je n'ai pas été baptisé catholique. Je n'ai pas besoin de le vœu de pauvreté. Mais si là, j'aime Dieu véritablement, tout ce que j'ai, c'est à Dieu. Puis Dieu là, me dit, fais ceci, fais cela. Moi, j'aime ça les témoignages des gens qui ont dit, je fais ceci. Est-ce que je peux terminer avec un témoignage? Jesse Duplantis, un homme de Dieu, ça fait des années qu'il a obéi les principes de Dieu. Que j'ai même pas mentionné vraiment aujourd'hui. Je vous ai juste dit, premièrement, que Dieu veut pas que vous soyez pauvres, puis la majorité d'entre vous, c'est une révolution, peut-être. Mais regardez bien. Lui, il a compris ça, là, des années 60, là, que Dieu voulait l'enrichir pour son royaume. Lui, il était cassé avant, super pauvre. Mais il a appris. Mais une des façons qu'il a appris, c'est vraiment en écoutant la voix de Dieu. Dieu lui disait comment faire ses transactions. En 2008, juste avant la crise économique aux États-Unis, il est là avec des banquiers et les banquiers lui proposent tel projet pour investir. Là, M. Duplantis, le prédicateur, il dit au banquier, il dit, bien, OK, je vais penser à ça, je vais aller chez moi prier sur votre proposition. Le banquier est là, prier? Oui, je vais aller chez moi, je vais aller prier pour cette proposition. Prier? Oui, je vais aller chez moi, je vais aller prier. Jesse Duplantis s'en va, il va prier et le Seigneur lui dit, ne fais rien, fais pas ça, embarque pas dans cette chose-là. Il retourne voir M. le banquier, il lui dit, bien merci pour l'offre, mais finalement, je vais passer. Ah oui? Ah mais là, c'est vraiment formidable comme offre, là, vous allez perdre de l'argent, blablabla. Ben, pourquoi vous embarquez pas dans le projet? Dieu m'a dit non. Ah, OK. Dieu lui a dit non. Et là, les gens, ah, il va perdre de l'argent. C'est un fou, c'est un religieux fou dans la tête, lui. Après, quelques temps après, 2008, crise économique, tous ceux qui avaient investi là-dedans, perdu tout leur argent. Le frère Duplantis, il dit, cet argent-là, c'est à Dieu. C'est sacré, mon argent. Dieu m'a dit non, mais il m'a dit, fais ceci. Le ceci lui a fait faire de l'argent. Pourquoi? Pour la cause de Christ, pour l'investir davantage dans l'Église de Jésus-Christ, pour que d'autres personnes entendent parler de lui. Et là, M. Banquier rencontre un jeune pasteur. Le jeune pasteur est là avec le M. le banquier. Il dit, en tout cas, j'espère que tu n'es pas comme Jesse Duplantis. Il dit, comment ça? Lui, vraiment, là, je ne suis pas capable. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez contre Jesse Duplantis? C'est un grand homme de Dieu. Il n'a pas besoin de nous. Exactement. Pas besoin des banques. Pas besoin des autres. Le système mondain veut vous avoir comme ça. Il y a un autre système, il y a un autre royaume. Dans nos églises au Québec, on a besoin de révolution. On a besoin d'entendre la voix de Dieu, savoir où mettre notre argent. Là, aujourd'hui, il y en a qui, vous êtes ici, vous dites, là, ça se peut pas que le pasteur Joël Spinks de l'Église de la Victoire du Québec nous a enseigné sur les finances dans une église. Ça se peut pas. Je peux vous dire, dans la parole de Dieu, on entend plus parler d'argent qu'on entend parler de la prière. Mais pourtant, on prêche beaucoup plus sur la prière. Pourquoi? Parce que ça semble plus spirituel. Mais savez-vous, l'argent, ça peut avoir une mission spirituelle? Jésus en parlait beaucoup. Si vous êtes ouvert, puis vous voulez commencer à découvrir ce que Dieu dit, pas ce que les hommes disent, commencez à découvrir les principes économiques de Dieu, vous verrez que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour son Église. Et moi, aujourd'hui, je me tiens ici, et savez-vous, j'ose croire, j'ai prêché longtemps, là, je sais, mais j'ose croire que certains ici, là, j'aimerais même croire que tout le monde, que chaque personne ici a un cœur pur. Chaque personne ici dit, Seigneur, moi, là, je veux vraiment être un canal pour toi. Avec des cœurs peu, pas des gens avares là, qui aiment le matériel. Il faut aimer juste Dieu, mais il faut savoir apprécier. Admettons, Seigneur vous a donné une belle chose, vous pouvez l'apprécier, puis ça dit c'est pour votre grand plaisir. Donc Dieu veut que vous puissiez lui dire, merci Seigneur pour cette belle chose que tu m'as donnée. Merci pour ma belle maison, merci pour ces choses. Je l'apprécie Seigneur, c'est mon grand plaisir. Dieu veut nous faire plaisir. Il ne faut pas faire semblant qu'on n'aime pas ça, dans le sens qu'on n'a pas d'appréciation, mais il ne faut pas avoir l'attachement à ces choses-là. Parce que ça se peut que Dieu va vous dire, « Je suis tellement content que tu aimes ta belle maison. C'est parce que aussi je voulais faire plaisir à ton frère aussi. Pourras-tu lui relâcher? » Et là, oui, Seigneur. Mais si vous avez un cœur libéral, vous pouvez le faire. Mais en plus, vous savez que Dieu a toujours pris soin de vous. Si vous dites de relâcher, mais là, vous savez qu'il y a une autre maison en réserve pour vous. Vous savez que vous ne serez pas dans la rue. J'aimerais ça vous aider à comprendre. Je ne sais pas si j'ai réussi. Mais c'est ça le vrai message de la prospérité. C'est d'être généreux. C'est que tout ce qu'on a appartient à Dieu. On est soumis à Dieu. On aime Dieu exclusivement. On n'est pas matérialiste. On aime Dieu. Mais on comprend que Dieu a une mission sur cette terre. Et on doit prêcher l'évangile de Jésus-Christ. On peut le prêcher de bouche à oreille comme ça. Mais Dieu a d'autres moyens. Savez-vous que Dieu veut construire une belle grosse église pour nous? Une grosse église. Moi, j'ose vous le dire. Et tant qu'il y a, s'il y en a qui vont parler contre moi, je vais vous dire, là. Je vais continuer. Une grosse église, des studios d'enregistrement pour la télévision, certainement, des studios d'enregistrement pour faire des CD. Pourquoi pas une belle école biblique, tant qu'à ça? Pourquoi pas? Quoi d'autre, donc? Maison d'édition, c'est sûr, maison d'édition, ça va être bien, ça. J'aimerais ça, quand ma Bible va tout être faite, ma Bible d'étude, on va pouvoir l'imprimer. Faut pas oublier notre jet. Tout ce qu'on a besoin. Moi, le Dieu que je sers, là, c'est pas un Québécois. Il vit pas au Québec. Il vient nous visiter au Québec, là, mais il vient de la Nouvelle-Jérusalem. Et moi, je suis un ambassadeur d'un autre royaume. Là, vous avez le choix, croire des représentants de la terre, entendre les apôtres du diable, puis vivre comme ça. Mais ici, nous autres, on a pris une décision dans cette église, là, on va vivre pleinement ce que Dieu veut. On va le vivre. J'ai pris la décision, dans notre équipe, on va croire Dieu, on va faire les projets de Dieu, puis c'est ça qu'on va vivre. Amen? C'est ça. Je termine avec un dernier verset. Le psaume 112, verset 2 à 3. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison, ça veut dire qu'il y a même une maison là. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Pas le bien-être. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. C'est encore la Bible que je viens de vous lire. Puis peut-être que vous avez plein de questions. Vous pouvez écouter ma série sur l'économie du royaume. Et peut-être que vous allez entendre d'autres choses pour vous aider. Amen. Est-ce qu'on peut avoir l'équipe de la louange? Peut-être que vous allez revenir, s'il vous plaît. Je vais vous inviter, on va se lever ensemble. On va juste louer le Seigneur. Mais avant, est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vais prier premièrement pour vous, puis après je vais vous faire répéter après moi, pour ceux qui veulent recevoir leur héritage. Père éternel, je viens devant toi, Seigneur. Je réalise aujourd'hui que ce que j'ai prêché, c'est assez révolutionnaire pour bien des gens au Québec et pour les gens partout à travers la francophonie. Seigneur, il y en a tellement qui ont vécu avec un esprit de pauvreté, avec une pensée de petitesse, avec une pensée du petit pain. Seigneur, pour eux, c'est quasiment les emmener sur une autre planète, leur faire croire que tu veux les bénir financièrement. Seigneur, je prie aujourd'hui pour chaque personne dans cette église. Je prie que ce moment aujourd'hui, que ce soit un moment historique, un changement radical dans notre façon de penser. Seigneur, je prie que personne dans cette place, que chaque personne soit vraiment affranchie, que personne ici qui reste attaché au mensonge des enfants du diable. Mais je prie que chaque personne puisse croire que Christ est littéralement l'héritier et que nous sommes ensemble co-héritiers avec Christ pour régner sur cette terre, pour faire tout ce que tu nous appelles à faire. Merci Seigneur Dieu. Je prie maintenant pour la libération de mes frères et mes sœurs qui ont été captifs par des esprits de mensonges. Au nom de Jésus, je décrète aujourd'hui que les mensonges quittent vos vies, que des esprits de mensonges pour faire vivre la pauvreté. Au nom de Jésus, on les chasse. Au nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, je prie que chaque personne ici puisse dire, je vais devenir un canal. Un canal. Un canal. Pour toi, Seigneur Dieu, sans retenir ce que tu me dis de donner, que je sois fidèle, fidèle et obéir à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Là, ceux qui ont cru, si vous avez cru que vous avez droit à l'héritage aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous, c'est encore trop loin. Peut-être que vous avez besoin de réécouter le message. Peut-être que vous avez besoin d'étudier les versets, les relire, pour voir ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter. Juste, on va s'arrêter un moment. Si vous dites, vous êtes prêt à devenir un canal, vous êtes prêt à recevoir votre héritage, mais vous avez un cœur pur, vous n'êtes pas des gens avares, là. Parce que si Dieu, il voit votre main, puis là, vous dites, moi, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à être enrichi, comme ta parole dit. Mais quand tu m'enrichis, Seigneur, je sais c'est pourquoi. Je sais c'est pourquoi. Comme tu vas m'enrichir, Seigneur, je m'engage devant toi à être ce canal. Je m'engage devant toi à relâcher ce que tu me diras de relâcher. Si vous êtes comme ça, si vous êtes vraiment honnête, intègre, vous avez un cœur pur, je vais vous demander si vous êtes d'accord aussi avec ça. Parce que Dieu le sait. Levez votre main et je vais prier pour vous. Puis vous dites, moi là, je veux être un canal pour Dieu. Père éternel, tu vois les mains. Tu vois les mains de mes frères et de mes sœurs qui veulent devenir pour toi un canal pour toi. Ces gens-là abandonnent la tradition, Seigneur Dieu. Tu les vois en ce moment. Tu vois chaque personne qui dit, je ne veux pas croire la tradition, je veux croire ta parole. Seigneur, tu vois les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Et cette année, tu connais leur compte de banque. Tu connais les dettes, Seigneur Dieu, dans cette église. Tu connais les gens qui sont liés par leur, dans leurs finances. Seigneur Dieu, tu vois ses mains. Aujourd'hui, on se repent de l'endettement. On te demande pardon, Seigneur, quand on a manqué de confiance, on a manqué de sagesse, Seigneur Dieu. On te demande pardon aujourd'hui. On te demande de nous pardonner de nos dépenses folles, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, lave-nous. Seigneur Dieu, on veut déclarer que tu es notre maître aujourd'hui. Tu es notre maître, le maître de nos finances. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, on s'engage devant toi. Je déclare de ma bouche, je veux être ton canal. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, je veux être? Vous devez dire avec conviction, je veux être ton canal. Sers-toi de moi. Je reçois mon héritage au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant pour ce qu'il va faire? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à toi. Merci Seigneur Dieu. Préparez-vous à vivre des changements maintenant, mais préparez-vous à être obéissant. Je vais vous faire répéter après moi, je suis béni.
Je suis béni.
Le shalom de Dieu
est sur ma tête.
J'ai rien de manquant. Rien de brisé dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.